Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Aujourd'hui, lors de notre émission de réflexion biblique, nous allons dans un premier temps nous pencher sur un thème qui apparaît dans le livre des Proverbes. Et ensuite, nous méditerons sur la parabole du fils prodigue.
Ceci en compagnie de nos invités, Alain et Flavien.
Le livre biblique des Proverbes nous enseigne comment nous comporter avec sagesse sur des thèmes touchant notre quotidien. Notre invité Alain est à nouveau parmi nous et aujourd'hui il va nous éclairer davantage sur ce que les Proverbes nous enseignent quant à ce que devrait être notre relation avec Dieu. Bonjour Alain.
Bonjour Yann et bonjour à tous. Aujourd'hui, à travers l'étude des Proverbes, je voudrais parler de la façon dont nous devrions nous approcher de Dieu. Car nous sommes appelés à révérer l'Éternel. Certaines traductions parlent de craindre l'Éternel. De même, la Bible nous encourage à placer notre confiance en Dieu.
Pouvez-vous nous citer des proverbes parlant du respect que nous devons avoir envers l'Éternel ?
Oui, bien sûr, en voici deux. Lisons tout d'abord au chapitre 9, le verset 10. La clé de la sagesse, c'est révérer l'Éternel. Ensuite, chapitre 2, versets 4 et 5. Si tu recherches la sagesse comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver comme pour découvrir des trésors, alors tu comprendras ce qu'est révérer l'Éternel et tu apprendras à connaître Dieu.
Le mot « révérer » n'est pas forcément compris de tous. Pouvez-vous le définir ?
Selon le dictionnaire, ce mot « révérer » signifie « considérer quelqu'un avec un profond respect mêlé de crainte ». Je pense que nous pouvons ajouter à cette définition le sentiment d'émerveillement que nous pouvons ressentir devant la majesté et la gloire de l'Éternel, comme devant la beauté de tout ce qu'il a créé. Nous pouvons y inclure le sentiment d'humilité et de petitesse que nous éprouvons lorsque nous considérons sa grandeur et sa puissance, sa justice et sa sainteté. Ce respect se traduit par le désir d'accorder à l'Éternel une place de première importance. Également, révérer l'Éternel, c'est prendre au sérieux ce qu'il déclare aux hommes. C'est aussi mener une vie à la lumière de tout ce qu'il leur révèle.
Pour en revenir au proverbe, l'un de ceux que vous avez cités suggère que nous devons travailler à révérer Dieu, que nous devons nous efforcer à y parvenir.
Oui, tout à fait. Ce proverbe compare la sagesse à un trésor. Il faut creuser pour le trouver. Or, cet acte implique un travail dur et pénible. Également, la sagesse est comparée aux métaux précieux contenus dans la roche. Les extraire nécessitent un travail demandant un effort.
Donc, acquérir la sagesse, nous permettant de révérer l'Éternel, implique un effort. Mais cet effort en vaut-il la peine ?
L'image du trésor et des métaux précieux évoque un bien d'une valeur inestimable et d'une beauté incomparable. Imaginons que nous ayons du mal à subvenir à nos besoins et qu'une personne, preuve à l'appui, nous apprennent qu'un trésor se trouve enfui dans l'un de nos champs. Il serait alors insensé de ne pas chercher à le déterrer, car caché, il ne sert à rien. Toutefois, si suite à des recherches ardues, nous le trouvions, nous deviendrions alors riches et ne connaîtrions plus de soucis d'ordre matériel. Pour en revenir au proverbe en question, nous lisons que ce trésor nous apprendra à connaître Dieu. Or, il ne peut y avoir de plus grand trésor que celui de connaître Dieu. Mais Yann, pouvez-vous lire maintenant un autre proverbe au chapitre 19 et verset 23 ?
Oui, ce proverbe déclare « Révérer l'Éternel mène à la vie, et comblé, on passe même la nuit à l'abri du malheur. »
Nous savons qu'en révérant l'Éternel, c'est-à-dire en éprouvant pour lui un profond respect, nous apprenons à le connaître. Et ce dernier proverbe nous révèle d'autres bonnes raisons pour révérer Dieu, car en le faisant, l'Éternel nous mène à la vie, et nous restons même la nuit à l'abri du danger ou du malheur.
Mais Alain, comment l'Éternel peut-il nous conduire à la vie ? Quelle vie peut-il nous donner que nous n'expérimentons pas déjà ?
Selon la Bible, la vraie vie, la vie authentique, riche et abondante, est celle où l'Éternel trouve sa place, celle où l'Éternel peut déverser ses bénédictions. La Bible le déclare. À cause de nos fautes, nous sommes spirituellement morts. Cependant, si par la foi nous révérons l'Éternel, Dieu alors nous fait connaître la vie avec lui. De plus, même si nos fautes nous destinent à la mort éternelle, par la foi en Jésus-Christ, leurs conséquences sont effacées. Dieu accorde à tout homme et à toute femme qui place sa confiance en Christ l'espérance de la vie éternelle. Une fois de plus, il serait folie de ne pas chercher ce trésor caché dans le champ. Autrement dit, il serait folie de ne pas aspirer à vivre avec Dieu et de ne pas rechercher cette vie avec lui.
Merci Alain. Pouvez-vous terminer à présent en résumant ce que nous devons faire pour révérer l'Éternel? Autrement dit, comment trouver ce trésor caché qui consiste à connaître le Seigneur, ses bénédictions et la vie éternelle?
L'Éternel, le Dieu invisible, se met à la hauteur des hommes, car pour se faire connaître à eux, il met à leur disposition tout ce dont ils ont besoin pour qu'ils viennent à lui. Notre Dieu se révèle par sa parole trouvée dans le livre que nous appelons la Bible. L'Éternel désire nous parler, et il veut que nous l'écoutions. Ainsi, révérer l'Éternel, c'est-à-dire éprouver pour lui un profond respect, c'est prendre le temps et l'effort pour apprendre ce qu'il veut que nous sachions. Nous devons écouter Dieu en lisant la Bible, sa parole, écouter ceux qui nous l'enseignent. Révérer l'Éternel, c'est aimer sa parole, mais c'est aussi la prendre au sérieux. C'est la croire et la mettre en pratique. Révérer l'Éternel, c'est le laisser régner dans nos vies, c'est lui donner la place qu'il mérite d'occuper.
À présent, Yann et Flavien poursuivent leur discussion sur la parabole des deux fils perdus. Yann va commencer par un court résumé sur la partie du récit déjà étudiée.
Nous avons déjà appris qu'un des deux jeunes hommes de cette parabole partit de chez lui, après avoir demandé à son père sa part d'héritage. Ensuite, dans un pays lointain, il dilapida tout son argent et se retrouva totalement démuni et affamé. En réfléchissant sur sa situation, il prit conscience du mal qu'il avait fait à son père et décide de rentrer chez lui. Mais alors qu'il était encore loin de sa maison, son père l'aperçut et courut à sa rencontre. Il désirait lui pardonner toutes ses fautes passées et voulait fêter son retour. Mais comment donc a réagi son fils aîné? Voici la suite de cette histoire.
Ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit : « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a trouvé sain et sauf. » Alors, le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais lui répondit : « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi, et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu, et voici, il est retrouvé. »
Le fils aîné ne semble pas du tout content du retour de son frère à la maison.
Effectivement, mais avant de se demander pourquoi, je voudrais faire remarquer qu'il n'a pas non plus envers son père une bonne attitude. Je dirais même que, quelque part, ce fils aîné semble tout aussi perdu que son frère. Il ne jouit pas avec son père d'une relation épanouie.
Donc il semblerait que ces deux fils soient perdus, soit en quittant la maison familiale, soit en y restant. Il semblerait que l'un et l'autre n'ont pas bien agi envers leur père.
C'est tout à fait exact.
Mais quels sont les faits qui vous permettent d'affirmer que la relation qu'entretient le fils aîné avec son père n'est pas bonne?
Eh bien, plusieurs preuves apparaissent dans le texte lu. Tout d'abord, lorsqu'il rentre à la maison et apprend que son frère est de retour, il refuse de participer au festin organisé par son père, mais préfère bouder devant la maison familiale. Et lorsque son père vient pour lui parler, il se met en colère et lui cherche querelle. Il faut se représenter ce fils se conduisant ainsi devant tous les invités présents à la fête. Imaginez l'insulte et l'humiliation pour ce père d'être traité ainsi publiquement par son fils. Ce fils aurait dû être à ses côtés. Il aurait dû l'aider à accueillir les invités et à s'occuper d'eux. Mais au lieu d'honorer son père ainsi, il apporte le déshonneur et la honte. L'offense de ce fils aîné est presque aussi grave que celle du frère cadet lors de son départ de chez lui. Tout dans l'attitude du fils aîné montre que sa relation envers son père n'est pas une bonne relation.
Nous savons que Jésus n'a pas raconté ces détails afin de nous divertir, mais plutôt pour nous instruire sur le plan spirituel. Quelle est donc la signification de ces événements?
Nous pouvons comparer le fils cadet aux gens qui mènent une vie débauchée ou une vie marquée par la violence, une vie caractérisée par des péchés graves ou la révolte contre Dieu. Tandis que nous pouvons comparer le fils aîné de notre parabole aux gens semblant mener une vie respectable et pieuse. En apparence, ils paraissent être de bons chrétiens, mais quelque part dans leur cœur, dans leur vie, quelque chose ne va pas. Quelque chose les empêche de jouir d'une relation authentique avec Dieu. Quelque chose les prive de la plénitude de son amour.
Est-ce le résultat d'une mauvaise attitude envers Dieu?
Oui, il est possible de faire croire aux hommes que nous sommes des gens bien, en nous rendant régulièrement à l'église, par exemple, ou même en faisant beaucoup de bien. Cependant, si ces mêmes personnes entretiennent de l'amertume, de la colère contre Dieu, ou encore sont révoltées contre lui, un simple incident peut dévoiler les véritables motifs de leur cœur et révéler aux yeux de tous le problème qui se cache derrière leur apparence trompeuse.
Mais quelle est la racine du problème? Pourquoi le fils aîné a-t-il si rancunier?
Nous répondons à cette question en profondeur lors de notre prochaine émission. Mais pour conclure, je voudrais simplement souligner qu'à travers cette parabole, Jésus veut que nous réalisions que pour le Seigneur, nous ne sommes pas des esclaves, mais des enfants. Et il voudrait que nous jouissions pleinement d'une relation avec Dieu, le Père parfait. Les deux fils de la parabole étudiée sont considérés comme perdus, car ni l'un ni l'autre n'osent recevoir l'amour de leur Père. Nous aussi, en tant qu'êtres humains, nous pouvons nous priver, pour diverses raisons, de ces relations confiantes, aimantes et épanouissantes que Dieu notre Père offre à tous les hommes. Or aujourd'hui, Jésus veut que vous vous remettiez en question. Il veut que vous receviez l'amour que Dieu offre.
Merci Flavien. C'est effectivement notre désir que tous vous puissiez découvrir en notre Dieu un Père parfaitement capable de vous aimer et de combler tous vos besoins.
Sur ce, nous vous disons au revoir.
Et que Dieu vous bénisse.